France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
L'éloge de la calvitie est une critique en même temps qu'un jeu littéraire, un texte où se trouvent valorisés les crânes lisses. Synésius de Cyrène convoque plusieurs exemples, les philosophes grecs comme Socrate qui possédait un crâne lisse. La calvitie a non seulement sa propre dignité, mais une dignité supérieure aux cheveux qui lui ramène à la bestialité.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je n'exclus pas ce matin, de prime abord en tout cas, d'être taxé de quelques gamineries. Nous allons parler en effet du poil, ou plutôt de l'absence du poil sur les crânes. Nous allons parler, et oui, nous allons parler de la calvitie dans l'Antiquité. Ce sera avec l'ambition, par-delà la fausse apparence du dérisoire, de vous montrer qu'en traitant de ce thème quelque peu bizarre, on offre un éclairage original sur des sociétés anciennes. Il s'agira du regard jeté sur les chauves, en Grèce et à Rome, aux différents âges de leur vie, et des préjugés manifestés par là quant à la beauté et à la laideur, préjugés qui rejoignent des préoccupations morales. Les pratiques religieuses ne sont jamais loin, pas plus que les diversités sociales. La médecine du temps se préoccupe aussi déjà de possibles remèdes à l'apparente fatalité qui frappe les chauves, en se souciant de ce que les crânes dénudés peuvent nous dire sur les âges de la vie et aussi sur la sexualité avec ses normes et ses dévergondages dénoncés. Dissimuler la calvitie, pour les hommes surtout, mais aussi pour les femmes, est un défi constant, tandis que la provoquer par le rasoir est parfois une prudence et une détermination, souvent une violence. Les sources littéraires, sans qu'on s'y soit forcément attendu, abondent sur ce sujet. Et le moins intéressant n'est pas la dimension politique de la calvitie en ces temps anciens, selon des ressorts que nous allons voir évoluer dans le cas particulier de Rome, au gré des régimes successifs et au cœur même des luttes de pouvoir. Jules César en a su déjà quelque chose, lui que sa calvitie désolait et qui travaillait à la cacher. Caroline Husquin, maîtresse de conférences à l'Université de Lille, mon invitée, fait paraître sur ce sujet, en complicité avec Robinson Baudry, un livre original, à la fois grave et joyeux, selon un mélange fort bienvenu et que notre conversation va, je l'espère, refléter.
Un poil, deux poils viennent de tomber de sa tête. Trois poils, quatre poils, tous les poils ont mis les voiles. Cinq poils, six poils, et plus rien ne les arrête. Sept poils, huit poils, du soir au matin il râle. Jamais, jamais, ça ne poussera sur sa cafetière. Jamais, jamais, il ne pourra se peigner. Neuf poils, dix poils, il n'y a plus rien à faire. Onze poils, douze poils, et son crâne est dénudé. Il a tout essayé depuis la moelle de bœuf à l'île de Salsifis. Il s'est fait bien soigner pendant des mois entiers, mais jamais rien n'y fit. Il s'est frotté le crâne avec du piment rouge sur des tampons de coton. Mais ses maudits cheveux n'ont jamais regagné leur place à son fronton. Un poil, deux poils, chez le coiffeur il se présente. Trois poils, quatre poils, Monsieur le Merlan, c'est un scandale. 5 poils, 6 poils, cette calvitie me hante. 7 poils, 8 poils, c'est un désastre total. Monsieur, monsieur, si vous étiez un eunuque, monsieur, voyons monsieur, vous auriez plus de cheveux. Coiffeur, coiffeur, j'aime mieux porter perruque. Montrez, montrez ce que vous avez de mieux. Eh bien, monsieur, nous aurions à vous proposer un ravissant toupet en poil de bique monté sur du nylon. Et nous pourrions le faire. Attendez, laissez-moi réfléchir. Brun ? Brun ? Ah, alors attendez, quelque chose de beaucoup plus jeune. Eh bien, acajou ? Acajou ? Ah, je vois, je vois. Ah, tenez, monsieur, très moderne. Le blond vison. Vison ! Eh bien, coiffeur, après tout, réflexion faite, j'aime mieux rester sans un poil sur le caillou. Il y en a qui sont devenus vedettes. Et maintenant, c'est eux qui touchent les gros sous.
Caroline Husquin, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeanneney.
Je vous ai fait sauter à pieds joints dans notre sujet grâce à la chanson Java Chauve, qui est due à Boris Vian et à Henri Salvador pour la musique, chantée par Paola en 1960. Nos thèmes sont déjà là.
Effectivement, la calvitie.
Mais pour ouvrir cette conversation, je voudrais que vous nous rappeliez ce qui est arrivé, dit la légende, à Eschyle, le grand dramaturge grec.
Oui, alors une mort tout à fait absurde, puisque ce dramaturge, Pline l'Ancien nous le rapporte, aurait reçu sur le crâne, son crâne qui était lisse, une tortue lâchée par un rapace, donc un manque de chance que sa calvitie n'a pas arrangé.
Le rapace voulait briser la carapace de la tortue pour pouvoir la consommer, c'est ça ?
Tout à fait.
Et on observe que La Fontaine, dans une de ses fables, ce n'est pas la plus connue, qui s'appelle L'Horoscope, pour montrer qu'on se trompe toujours lorsqu'on suit les astres, explique que Eschyle avait quitté la ville pour éviter que le toit lui tombe dessus, ce qu'avait annoncé un mage, et pour aller à la campagne. Et il ajoute ceci, « Quelque devin le menaça, dit-on, de la chute d'une maison. Aussitôt il quitta la ville, mit son lit en plein champ, loin des toits, sous les cieux. Un aigle qui portait en l'air une tortue passa par là, vit l'homme, et sur sa tête nue, qui parut un morceau de rocher à ses yeux, étant de cheveux dépourvus, laissa tomber sa proie, afin de la casser, le pauvre Eschyle, ainsi, sut ses jours avancés, autrement dit, raccourcis. » Nous donnons une tonalité sombre, mais tout notre livre, Caroline Husquin, n'est pas marqué de la même façon. Il y a de la joie, de la dérision, de l'amusement. Ce qui frappe, c'est la diversité dès l'époque romaine, de l'intitulé de la calvitie, de la désignation des chauves. Il est toujours intéressant de partir de l'onomastique.
Effectivement, la variété du vocabulaire permet de montrer que la question n'est pas légère chez les Romains, qu'elle est prise très très au sérieux. On a une variété, un éventail de mots qui nous permettent de désigner la calvitie et ses différents degrés. Alors on a des termes très génériques, comme calvities ou calvitium qui désignent la calvitie. Calvus, qui est le chauve, et on a le pendant en grec, qui est phalakros, qui désigne la calvitie de manière générale. Donc calvus et phalakros, ce sont les deux termes les plus communément utilisés pour désigner la calvitie, mais on a aussi tout un éventail de termes qui permettent de désigner la gradation. Et donc vous avez des préfixes, des suffixes qui sont rajoutés pour désigner eh bien, cette calvitie. Vous avez les mots comme recalvus, praecalvus, tonsus, detonsus qui qualifient une calvitie plutôt volontaire cette fois-ci. Et donc ça permet eh bien, de donner un gradient finalement à la tête des personnes atteintes de calvitie. Et on a d'ailleurs aussi des auteurs qui s'amusent à créer de toutes pièces des termes pour désigner la calvitie, et notamment Martial, hein, ce satiriste du début de l'époque impériale, qui forge le terme de triphilie. C'est-à-dire littéralement celui qui a 3 cheveux.
Ça renvoie à la chanson.
Exactement.
Vous avez d'autres cas en grec ?
Alors en grec, le système est le même, mais le terme le plus communément utilisé, qu'on rencontre le plus, c'est phalakros, c'est le chauve.
Alors il faut que vous nous conduisiez dans ce monde et que vous nous disiez comment le regard du public, le regard des Grecs et surtout des Romains a pu se porter sur les chauves et la calvitie. Est-ce qu'il y a d'entrée de jeu une désignation péjorative ?
Non, pas forcément. Le vocabulaire que l'on vient d'évoquer n'est pas péjoratif en soi. Il le devient par les situations, le contexte dans lequel il est employé. C'est vraiment un regard qui dépend des situations, même si généralement la calvitie est dénigrée. Mais c'est vraiment le contexte qui fait le caractère péjoratif ou pas du vocabulaire.
C'est un élément d'identification. On est frappé par le fait que les familles nobles, aristocratiques en particulier, ont souvent mobilisé l'expression pour se définir et que du coup elle s'est perpétuée de génération en génération.
Tout à fait. Le mot de calvus et ses dérivés a pu être utilisé dans la nomenclature romaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Romains utilisent deux ou trois termes pour se nommer. Ils ont un prénom, un nom et parfois, mais ça n'est pas obligatoire, un surnom. Et le surnom se répand de façon très très importante dans les familles aristocratiques à partir de l'époque médio-républicaine. Et les surnoms, eh bien, reprenaient très très régulièrement des caractéristiques physiques dont la calvitie, eh bien, a pu faire partie. Par exemple, Calvus. Calvus est un surnom qu'on retrouve très régulièrement, le chauve.
Même si le petit-fils est chevelu, il continue à s'appeler Calvus.
Tout à fait. Il y a fort à parier, même si on ne peut pas exclure des phénomènes de reconstruction a posteriori, mais il y a tout à parier que le premier porteur du surnom était chauve. Mais effectivement, comme ces surnoms sont adoptés ensuite de façon héréditaire, eh bien, on peut avoir des calvis qui sont tout à fait chevelus.
Il y a des liens, c'est une construction culturelle, entre la laideur, la beauté, la calvitie étant considérée généralement comme négative à cet égard, et d'autre part les qualités morales. On est sensible à ça en vous lisant.
Oui, tout à fait. Les Romains assimilent beauté du corps et beauté de l'âme. Donc on a vraiment une mise en conformité finalement du physique des individus avec l'état supposé de leur âme, et ça n'est pas sans incidence, notamment sur la vie publique des individus, parce que chez les Romains, la beauté est aussi connotée à l'honneur, à la convenance. C'est une beauté qui n'est pas uniquement innée, elle est en partie acquise. Certaines caractéristiques de cette beauté sont données à la naissance, mais d'autres s'acquièrent. C'est la façon de parler, la façon de se mouvoir, la façon de marcher. Et donc, cette beauté et son inverse, la laideur, eh bien, sont également associées à l'honneur, au déshonneur et donc quelque part aussi à la compétence. Le citoyen qui revêt cette beauté convenable, eh bien, est le citoyen compétent, celui qui est apte à diriger la cité, alors que celui qui n'arrive pas à se conformer à cette beauté convenable, eh bien, est au contraire quelqu'un de honteux, qui a perdu son honneur et qui, en quelque sorte, eh bien, se discrédite sur la scène publique. On a une expression en latin qui est le decus. Le citoyen qui jouit de cette beauté convenable, on dit qu'il a son decus. Ça vient du verbe decet, c'est il convient. Et donc, a contrario, celui qui est laid ou qui est chauve, par exemple, eh bien, est susceptible d'avoir perdu son décousse, donc d'être dédécousse, c'est-à-dire de subir le déshonneur.
Dans la dignitas du citoyen, la forme est importante.
Cette dignitas fait complètement partie de ces codes de la beauté convenable du citoyen. Et donc, la laideur ou revêtir des caractéristiques, notamment physiques, qui sont associées à la laideur, eh bien, font courir aux citoyens le risque de perdre cette dignitas.
Même si vous notez quelque part que Sénèque, pour sa part, peut-être avait-il le goût d'être anticonformiste, insistait sur le fait que le sage pouvait exercer la vertu même dans un corps difforme. Mais le fait qu'il l'ait dit déjà signifie qu'il allait contre l'idée courante.
Il va absolument à contre-courant de l'idée la plus répandue, mais il montre que cette idée n'est pas non plus une fatalité. Et effectivement, comme exemple de cela, il évoque l'un de ses amis, alors il ne nous dit pas s'il est chauve, mais un dénommé Claranus, qui aurait été vraiment très très laid, qui avait également des infirmités. Et Sénèque, eh bien, nous explique que ce n'est pas parce que Claranus a ses infirmités infirmité, à ce corps qui n'est pas conforme à la beauté convenable attendue du citoyen, qu'il en est mauvais pour autant, bien au contraire, c'est un sage et c'est un penseur.
Cela va contre ce que dit Homère dans l'Iliade, puisqu'il décrit un personnage que détestait Achille, qui était tercite et dont la laideur parlait pour son indignité morale.
C'était l'homme le plus affreux venu sous Ilion. Il était cagneux, estropié d'une jambe, les deux épaules courbes, ramassées sur la poitrine. Par-dessus, il était pointu de la tête, y fleurissait un duvet rare. Achille le haïssait plus que tout, et aussi Ulysse, car il les provoquait tous deux.
C'était une lecture de Laurence Stocker dans l'émission « Quand les dieux rôdèrent sur la terre » de Pierre Judé de Lacombe sur France Inter le 3 février 2024. Ce tercite, il va dans le sens que vous dites, Caroline Husquin.
C'est le modèle du chauve laid. Là, on a vraiment l'incarnation de la calvitie comme élément de laideur et d'une laideur qui est déshonorante, mais qui est associée également à un certain nombre de stéréotypes, donc le déshonneur, mais aussi la ruse, la malhonnêteté.
Il est également éclairant de voir ce que les médecins en disent, puisque comme aujourd'hui, les médecins se préoccupent de l'éventualité d'aider les chauves à l'être moins ou à cesser de l'être. Je n'entre pas dans le domaine des cliniques aujourd'hui où on peut replanter des cheveux. Mais dès l'époque, Galien, Hippocrate traitent du sujet.
Les médecins, les naturalistes aussi, les férus de biologie comme Aristote également, se sont intéressés à la calvitie et notamment aux causes de la calvitie. Donc on a dans les traités médicaux, dans les traités d'Aristote également, des passages entiers qui font l'étiologie de la pousse des poils, donc de comment et à quelles conditions peut pousser le poil et le cheveu, et aussi eh bien, à quelles conditions on peut perdre ses poils ou ses cheveux. Et alors ces théories s'inscrivent dans la théorie médicale des humeurs, où eh bien, l'humidité, notamment, serait responsable de la pousse des cheveux. Et donc, les médecins et les naturalistes eh bien, en sont venus à dire qu'un manque d'humidité serait responsable de la chute des cheveux. Et donc, la vieillesse étant un âge où l'humidité s'en va, où l'humidité succède à la sécheresse, eh bien, la vieillesse serait une des causes de la calvitie. Des penseurs comme Aristote ont également, mais c'est déjà aussi présent chez certains médecins grecs, ont associé à l'idée d'humidité l'idée de chaleur. En plus de l'humidité, il faudrait de la chaleur pour que les cheveux poussent. Et donc, une perte de chaleur pourrait aussi être responsable de la chute des cheveux. Et alors, Aristote nous donne une raison très, très cocasse à la potentielle chute des cheveux, c'est l'émission spermatique.
Ça conduit à la sexualité.
Voilà, exactement. Parce que en émettant du sperme, eh bien, les hommes évacueraient de la chaleur. Et donc, le cerveau, qui est déjà une partie où il n'y a pas beaucoup de chaleur selon ses penseurs, eh bien, perdrait encore plus vite sa chaleur.
À la différence des enfants et des femmes.
Et causerait la chute des cheveux. Et les femmes et les enfants ne sont pas concernés.
Je vais vous faire entendre un médecin plus récent pour que vous puissiez nous dire, un dermatologue éminent, Monsieur Alize, qui va nous parler de l'alopécie. Une conférence de l'heure de culture française avec le ton de l'époque qui remonte au 26 mars 1954. Et vous pourrez nous dire s'il y a à cet égard permanence ou au contraire rupture entre votre Rome, telle que vous la pratiquez si bien, Caroline Husquin, et le milieu du XXe siècle. L'alopécie par Monsieur Alize.
On appelle alopécie l'absence de cheveux ou de poils. Elle peut intéresser tout ou partie du cuir chevelu. Il existe ainsi des alopécies totales, des alopécies diffuses, des alopécies en aire circonscrite. Certaines de ces alopécies résultent d'une fragilité du cheveu. Les cheveux présentent une série régulière de renflements et d'étranglements. La fragilité capillaire s'observe au niveau du rétrécissement et on conçoit ainsi que dès la sortie du cuir chevelu, le cheveu se casse au premier étranglement. La chute des cheveux peut s'arrêter provisoirement chez les sujets jeunes traités. Une repousse peut même être espérée avec un traitement patiemment poursuivi, mais le plus souvent, l'évolution se poursuit inexorablement. À moins qu'on ne fasse confiance à un remède, paraît-il infaillible, que Georges le Nôtre a extrait de vieux documents et qu'utilisaient nos ancêtres. Le voici. Il consistait en une application de 300 limaces bouillies et bien dégraissées dans une décoction de laurier, de miel, d'huile d'olive et de savon. Le traitement actuel comporte presque uniquement des médications locales antiséboriques et réductrices. Ces traitements locaux sont loin d'être inopérants. La chute peut être arrêtée ou pour le moins ralentie, et on recule ainsi l'échéance de la calvitie.
Les limaces dont il est question ici renvoient directement aux croyances de votre antiquité, Carlinus. Je vois que Pline l'Ancien, dont je rappelle qu'il a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, je vois qu'il écrivait ceci. La graisse d'ours arrête la chute des cheveux, efface l'alopécie et corrige les sourcils dégarnis. Si l'on ajoute des champignons de mèche et la suie qui recouvre le bec des lampes, avec du vin, cette graisse guérit le porigo, l'infection cutanée. Pour cette infection, on se sert encore de cendres de cornes de cerf dans du vin, ce qui en outre empêche la vermine d'envahir la chevelure. On y applique aussi le fiel de chèvre avec de la craie de cimol et du vinaigre, mélange qu'on laisse sécher quelque temps sur la tête, ou encore le fiel de truie et de l'urine de taureau. Est-ce que votre éditeur, Caroline Huskin, vous a demandé d'essayer tout ça?
Fort heureusement, non.
Donc on retrouve cette espèce de continuité entre tradition et une sorte de magie, non?
Ici, on a une permanence tout à fait notable avec l'extrait que l'on vient d'entendre. Il faut savoir que dans l'Antiquité, la médecine se découpe en trois branches qui ne sont pas cloisonnées. On a une médecine scientifique qui émane des médecins comme d'Hippocrate, par exemple, qui se détache des dieux et des explications religieuses des maladies pour aller vers des causes naturelles. On a une médecine magique qui est faite de fils ou d'amulettes, et on a une médecine religieuse qui est la médecine des temples et qui vise à solliciter le dieu pour obtenir une grâce quand on a un état de santé un peu défaillant.
Il y a un temple de la Vénus chauve, je vois.
Oui, il y a un temple de la Vénus chauve, alors qui là ne demande pas véritablement la guérison vis-à-vis de cet état du crâne. Il y a plusieurs origines à ce temple de la Vénus chauve. Les deux plus attestés dans les textes sont soit à mettre en relation avec un épisode guerrier de la cité de Rome, soit à mettre en relation avec une épidémie qui aurait fait perdre leurs cheveux aux femmes. En 390 avant notre ère, Rome aurait subi une invasion gauloise et l'histoire nous dit que pour remédier à cette invasion, on a manqué de matériaux pour faire des cordes et que donc les femmes auraient donné leurs cheveux pour faire des cordes et pour pouvoir bouter l'envahisseur finalement hors de Rome.
Parce les machines que c'était, de gel, les machines.
Voilà, tout à fait. Il y a plusieurs versions de cette histoire. Alors, on la place parfois en 390 pour l'invasion gauloise, mais on la retrouve aussi lors des guerres puniques, on la retrouve aussi lors des guerres civiles qui opposent César à Pompée. Et donc tantôt, effectivement, c'est pour faire des cordes pour les arcs, tantôt des cordes pour les machines de jet, tantôt simplement des cordes. Mais dans toutes ces histoires, les femmes auraient fait don de leurs cheveux, les seuls assez longs et assez résistants pour se substituer aux matériaux nécessaires pour faire les cordes, et elles auraient ainsi contribué finalement à sauver la cité. Donc le poil utile, c'est le poil féminin. Et la deuxième anecdote, c'est celle d'une épidémie. En fait, l'épouse d'un des rois de Rome, Ancus Marcius, aurait été frappée d'une épidémie et elle aurait perdu ses cheveux. Et donc, pour conjurer cette épidémie qui avait, selon la légende, touché d'autres femmes romaines, le roi aurait fait ériger une statue à la Vénus chauve. Et donc, le culte serait né de là. Et à la suite de l'érection de ce culte, les cheveux des femmes auraient repoussé.
Oui. Vous avez retrouvé la statue?
Non.
Elle a disparu.
Nous n'avons pas la statue.
On voit dans ce domaine, dans le domaine des chauves, dont nous faisons l'histoire pour l'Antiquité aujourd'hui, Caroline Huskin, on voit abonder les stéréotypes qui méritent qu'on s'y arrête dans cette société telle qu'elle est.
On revient sur ce que l'on avait dit tout à l'heure, hein, les stéréotypes sont liés en fait à cette beauté convenable du citoyen. Et donc dans ce cadre, eh bien, la calvitie peut être un élément de discréditation. Et c'est un élément qui jette d'autant plus le discrédit sur la personne concernée que cela renvoie à des défauts bien particuliers qui sont particulièrement stigmatisés dans la société romaine. La dépravation, la lâcheté, l'ivrognerie également, la ruse parfois.
Ça peut conduire vers une dénonciation des efféminés ?
Exactement. Le chauve, c'est un dépravé, mais c'est aussi un dépravé efféminé qui tend du côté de la molitia, c'est-à-dire de la mollesse, une mollesse qui est accolée à des individus qu'on qualifie, qu'on estime trop coquets, et donc qui basculent du côté du féminin, la beauté féminine n'étant pas la beauté masculine. Hein, toutes deux sont bien distinguées, eh bien, l'homme qui basculerait du côté de la beauté féminine est dénigré.
Et naturellement, on trouve le reflet de tout cela au théâtre, chez Aristophane et également chez les poètes. Vous citiez Martial, on peut citer aussi Ovide. Qu'est-ce qu'ils nous disent de ce sujet ?
Au théâtre, le chauve, c'est également le stupidus, c'est le bête. On a beaucoup d'éléments de dénigration du chauve. Et au théâtre, c'est vraiment le bête qu'on reconnaît par toute une série de caractéristiques physiques, dont la calvitie, mais il a aussi des grandes oreilles, un gros nez. Au théâtre, toujours, ça peut être aussi le léno, le marchand d'esclaves. Chez Plaute, notamment, on a un marchand d'esclaves qui est aussi un proxénète, l'abrax, eh bien, qui a une chevelure qui est dégarnie.
Lucien, qui est un auteur de langue grecque du IIe siècle, au lycée nous traduisions les dialogues des morts, supposés plus faciles que d'autres textes. Lucien décrit un maître de rhétorique presque chauve et particulièrement précieux.
Oui, il est presque chauve, il lui reste quelques frisettes de part et d'autre du crâne. Et Lucien nous dit qu'il utilise un seul doigt pour se gratter le crâne et pour remettre en place ses bouclettes, ce qui est un geste qui est jugé comme particulièrement efféminé et donc reflet de cette molitia tant décriée.
La situation sociale des chauves peut s'observer en particulier, Caroline Huskin, dans certaines circonstances spéciales. Je pense notamment au tribunal. Cicéron a des choses à nous dire à cet égard.
Cicéron utilise en contexte judiciaire la calvitie pour dénigrer son adversaire. C'est le cas dans un procès qui a lieu dans les années 70-60 avant notre ère, qui oppose un certain Caius Fannius à l'acteur Roscius, qui est défendu par Cicéron pour un litige pécuniaire. Et donc, Cicéron défend son client en s'attaquant au physique de son adversaire, ce fameux Caius Fannius, qui est chauve et qui a en outre la particularité d'avoir les sourcils également rasés. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique physique qui ne passe pas pour Cicéron. Et donc, dans son discours, il utilise cette calvitie pour dire que l'adversaire, finalement, a tous les vices de la terre. Et donc, il reprend tous les stéréotypes sur la ruse, la malhonnêteté, la lâcheté du chauve pour essayer de discréditer cet adversaire et faire gagner le procès à son client. On a dans les écrits de Cicéron, on a tout un développement sur à quel moment et comment on peut faire rire l'auditoire pour se le mettre dans la poche, hein, pour le dire de façon un petit peu triviale et l'emporter. Et les critères physiques font partie des choses sur lesquels eh bien, on peut taper et sur lesquels on peut insister, mais à condition, nous dit Cicéron, de ne pas entrer dans la bouffonnerie et surtout de prendre garde eh bien, que cela ne froisse pas quelqu'un dans l'auditoire.
C'est un domaine où les blagues prospèrent de partout. Je songe à celle que nous propose Apulée en particulier. Apulée qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ, la citation des deux maîtresses et du seul personnage et de ses cheveux malheureux.
On a cette anecdote qui revient chez plusieurs auteurs où on a un individu qui a deux maîtresses et cet individu est entre deux âges. Il a une maîtresse plus jeune que lui et une autre plus vieille que lui. Et chacune, en fait, de son côté, eh bien, souhaite mettre le physique de son amant en corrélation avec son propre âge. Donc la plus jeune, eh bien, lui arrache discrètement ses cheveux blancs, tandis que la plus vieille lui arrache ses cheveux bruns. Et donc, au final, le résultat est que cet individu, eh bien, se retrouve trouve chauve, finalement. Et on a plein d'anecdotes comme ça qui sont un petit peu piquantes et qui nous font encore sourire sur le chauve, qui est aussi un personnage, finalement, assez comique.
Là, c'est une alopécie qui n'est pas naturelle.
Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas voulu, sans doute, mais pas naturelle du tout.
Plutarque ne néglige pas cette question.
Non, Plutarque s'est longuement interrogé sur la question, et sous deux aspects différents. Le premier aspect, c'est pour justifier, ou expliquer plutôt, un vice qui est l'ivrognerie. Il met en rapport le fait d'abuser de l'alcool avec les théories des médecins et des naturalistes, notamment grecs, qui expliquaient la calvitie par un manque d'humidité et donc une sécheresse progressive de la tête. Et Plutarque nous explique que l'alcool a pour inconvénient de provoquer un assèchement à l'instar de la vieillesse. Et donc l'alcool provoquerait finalement les mêmes conséquences sur le crâne que la vieillesse, c'est-à-dire un dégarnissement. D'autre part, Plutarque nous explique également que les chauves sont, notamment lors de banquets, l'objet de blagues, de plaisanteries, de défis également. On pouvait mettre au défi des chauves de se peigner, par exemple. Donc ça fait partie des jeux de banquets, alors qu'ils ne visent pas uniquement les chauves, mais les chauves peuvent en être les victimes collatérales.
Cela peut conduire... C'est un autre chapitre, mais voisin à la question de la calvitie volontaire, autrement dit ceux qui se rasent le crâne. C'est un élément notable dans cette société telle qu'elle est, cette société hiérarchique.
Oui, tout à fait. Alors, on a deux types de calvitie volontaire. Le terme est un petit peu générique pour, se démarquer de la calvitie qui est subie par la perte naturelle des cheveux. Donc, on a une calvitie volontaire qui peut être contrainte et une calvitie volontaire qui peut être tout à fait consentie. Dans le cadre de la contrainte, c'est notamment la peine qui peut être infligée à certains esclaves, notamment les esclaves fugitifs. Ou aussi des condamnés. Les condamnés, par exemple, aux mines, pouvaient éventuellement se voir raser le crâne.
Les affranchis aussi, non ?
Les affranchis, ça peut être aussi un rite de passage vers leur nouveau statut, celui d'esclaves libérés et donc de citoyens. Et donc, un affranchi à qui on avait promis la liberté, se raser le crâne pour marquer ce changement de statut. On a aussi des individus qui se rasent le crâne de manière tout à fait volontaire, notamment pour des raisons religieuses.
On ne les appelle pas encore skinhead, mais c'est bien ça.
Pas encore, effectivement. Les Isiaques, les disciples et les dévots et les prêtres de la divinité Isis se rasaient le crâne en signe d'adhésion, d'appartenance à ce culte.
Il est notable que ce culte, que ce temple soit extérieur à Rome. C'est pas sans portée.
Non. C'est pas sans portée parce qu'Isis est intégrée au panthéon romain au 1er siècle de notre ère. Néanmoins, ça reste une divinité étrangère, donc son temple est hors du pomerium. Et effectivement, ses prêtres et ses adeptes gardent des traditions, des habitudes et des pratiques qui sont perçues par les Romains comme étant un petit peu exotiques.
En termes généraux, il arrive que l'on blâme tout simplement l'excès d'importance que les mâles peuvent attribuer à leur chevelure. Ce texte de Sénèque, à cet égard, est représentatif. C'est un extrait de La brièveté de la vie, lu par Georges Clès dans Le gai savoir de Raphaël Antoven sur France Culture le 26 septembre 2013.
Appelles-tu homme de loisir ceux qui passent tant d'heures chez le barbier à se faire enlever le moindre poil qui aura commencé à poindre pendant la nuit ? À tenir conseil sur chaque cheveu, à rétablir une mèche déplacée ou à ramener de ci, de là leur chevelure sur un front dégarni. Quelle indignation si le barbier a omis quelques minces détails, oubliant que ce n'est pas un homme qu'il rase. Quelle fureur si le rasoir a entamé leur crinière, si rien dépasse la ligne ordonnée, si chaque mèche ne retombe pas toute dans son anneau spécial. Est-il un de ces êtres qui n'aima mieux voir bouleverser l'état que sa chevelure, qui n'ait plus grand souci de l'ajustement de sa tête que de ce qui peut la sauver, qui ne choisisse d'être un homme bien coiffé plutôt qu'un honnête homme ?
Alors il faut choisir, Caroline Husquin, être bien coiffé ou être un honnête homme ?
Pour Sénèque, en tout cas, on a l'impression que c'est le cas. Et effectivement, il dénigre hein, ces individus qui accordent trop de soins à leur coiffure et qui tombent du côté de cette molitia tant décriée, cette effémination, cette coquetterie que ne supportent pas les Romains.
Cela rebondit chez les auteurs chrétiens parfois, puisque je vois que Tertullien, au IIe siècle, donc après Jésus-Christ, auteur chrétien, parle de cela aussi dans des termes tout à fait représentatifs.
Et notamment concernant les femmes. Quand on perd ses cheveux, on est tenté parfois eh bien, de recourir à certains artifices comme les perruques. Et les auteurs chrétiens, et Tertullien en fait partie, sont particulièrement véhéments sur la question du port de la perruque, notamment chez les femmes, parce que ça trouble, selon eux, eh bien, l'action du prêtre. On est donc chez des auteurs chrétiens qui voient la société et les choses au prisme de cette religion. Et donc ça brouille les pieds quant à l'action du prêtre, puisqu'on ne sait pas qui, en définitive, le prêtre bénit. Est-ce que c'est la tête de la femme chauve ou bien les cheveux de la femme à qui on a pris ses fanères, finalement, pour les mettre sur la tête d'une autre qui en était dépourvue. Et donc, les anciens utilisaient des perruques. On en a des attestations chez les hommes comme chez les femmes. Et c'était, en général, dans les écrits, plutôt mal perçu. Mais on a un écart entre les sources archéologiques ici et les écrits. Si on prend les sources littéraires, c'est quelque chose qui est régulièrement moqué, tant chez les hommes que chez les femmes. Les satiristes s'en moquent finalement pour stigmatiser finalement des gens qui n'assument pas leur âge, notamment pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc on se moque de ces personnages pour les hommes parce que c'est perçu encore une fois comme un signe d'effémination. L'empereur Othon, qui règne brièvement en 69 de notre ère, est notamment fustigé parce qu'il est soupçonné de porter une perruque. On a des représentations monétaires sur lesquelles les historiens ont identifier une potentielle perruque sur son crâne. Pour les femmes, c'est un peu différent. Ce sont surtout les courtisanes qui sont décriées pour leur port de perruque. Toujours dans cet esprit eh bien, de courir finalement après le temps et d'essayer d'endiguer eh bien, la fuite du temps et leurs appâts qui passent et donc la perte finalement de leur outil de travail. Donc c'est une question qui est légère pour les satiristes, mais qui pour les personnes concernées n'est absolument pas légère. Néanmoins, eh bien, les satiristes se moquent de ces femmes qui se font faire des cheveux artificiels et qui portent des cheveux artificiels pour essayer eh bien, de continuer à séduire leurs amants. Pour les femmes de la haute société, on est un petit peu moins renseignés. Les sources littéraires ne nous parlent pas de leur situation, mais on peut, grâce aux sources archéologiques, avoir une idée un petit peu plus précise de quelle perception était accolée au port de perruque pour elles, et une perception qui était sans doute un petit peu moins négative, puisque les femmes de la haute société utilisaient aussi les teintures, utilisaient aussi le fer à friser, hein, comme les courtisanes, et donc il est vraisemblable qu'elles aussi ont perdu leurs cheveux. Donc là, ce serait un port qui n'est pas stigmatisé, qui était tout à fait permis.
Et dans le même temps, de nombreux auteurs déplorent que les femmes qui perdent leurs cheveux, même très belles, cessent d'avoir leur attrait. Je vois que Apulée imagine qu'une femme telle, même dans les enfers, près de Vulcain, ne serait pas aimée par celui-ci.
La chevelure fait partie intégrante, on l'a vu, de la beauté convenable du citoyen, mais aussi de celle de la femme. Alors ça n'est pas la même beauté, hein. La beauté du citoyen, on l'a vu, c'est la dignitas. Cicéron nous dit que la beauté féminine, c'est plutôt la venustas, hein. On remarquera le lien avec Vénus. Et effectivement, la chevelure chez les femmes a une portée érotique puissante et c'est un élément de sa beauté et de l'attirance qu'elle peut exercer sur les hommes. Et
donc, bien avant Baudelaire pourtant.
Oui. Et donc, eh bien, pour une femme, perdre ses cheveux, c'est en quelque sorte perdre sa beauté. Mais c'est loin d'être une question aussi futile que le laissent penser poètes et satiristes, parce que dans les sociétés anciennes, et à Rome en particulier, la répartition sociale des rôles est extrêmement genrée. À l'homme, la vie publique et politique de la cité, et à la femme, une tâche essentielle, c'est celle de faire des futurs citoyens. Et donc, une femme qui n'a plus ses cheveux, eh bien, potentiellement, c'est une femme qui ne plaît pas, et c'est une femme qu'on va avoir éventuellement des difficultés à marier. Et donc, elle ne peut pas, dans ce cas-là, remplir le rôle social qui lui est assigné, faire des citoyens. Et donc, en quelque sorte, eh bien, ça devient une femme inutile. Donc c'est loin d'être une question aussi légère que les textes satiriques ou poétiques pourraient nous le laisser penser, même si les femmes sont fustigées eh bien, pour leur coquetterie, qui est une des raisons de la calvitie, avec les teintures et l'utilisation abusive du fer à friser qui faisait tomber les cheveux.
France Culture, Concordance des temps.
Qu'a des Roussel à trois cheveux, il n'endort plus le malheureux. Sûrement il pêche par ignorance, l'on peut dire avec assurance que si chaque jour il s'était appliqué une bonne friction faite de lotion xour, ses trois cheveux seraient une toison. Faite de lotion xour, ses trois cheveux seraient une toison. Avec la lotion xour, des cheveux pour toujours.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Caroline Husquin, dans le deuxième moment de notre conversation consacrée aux chauves dans l'Antiquité grecque et surtout romaine, je voudrais que nous en venions à l'importance de la calvitie dissimulée, blâmée, ridiculisée dans les trois moments de l'histoire de Rome, la République, les débuts de l'Empire et ensuite, en commençant par Jules César. Dites-nous ce qu'on sait de Jules César et de son irritation extrême au fait qu'il devenait chauve et la manière dont il a pu utiliser en particulier sa couronne pour le dissimuler.
C'est Suétone effectivement qui fait allusion à cela dans la vie des 12 Césars où il nous explique eh bien, que César était vraiment chagriné de sa calvitie naissante. Il était probablement pas tout à fait chauve mais il avait quand même un dégarnissement assez important pour qu'il en souffre. Et Suétone eh bien, nous explique qu'il a été vraiment très très content de cet honneur décerné par le Sénat en 44 avant notre ère, de pouvoir porter en permanence la couronne de laurier, parce que ça lui permettait eh bien, de cacher ce défaut physique dont il était victime parfois de raillerie.
Pour la période ultérieure, c'est-à-dire celle des premiers temps de l'Empire, la calvitie devient un élément du débat, du conflit, de la dérision.
Oui, c'est un élément qui, parmi d'autres, est utilisé pour discréditer les mauvais princes, pour qualifier finalement le gouvernement des mauvais princes. Et c'est Suétone hein, qui fait ça parfaitement. On utilise la calvitie pour finalement désigner le tyran. Donc on utilise la calvitie pour désigner Caligula, pour désigner Domitien. Ça fait partie, avec d'autres critères, de la construction négative et de la réputation terrible qu'on a forgée à ces empereurs après leur mort.
C'est Juvénal qui dit que Domitien, c'est un Néron chauve. C'était sûrement pas un compliment.
Non, ça n'était absolument pas un compliment. En fait, par cette expression, il vise à dire que le dernier des Flaviens eh bien, était en quelque sorte pire que le dernier des Julio-Claudiens, qui lui était un très mauvais empereur, mais n'est pas passé comme réputé pour être en chauve à la postérité, contrairement à Domitien.
À un moment donné, je vois que ces gens se moquent de la calvitie de Tibère en rasant, voyez-vous ça, 5000 esclaves.
Oui, c'est à l'occasion des Jeux floraux. Ces gens, pour se moquer de la calvitie de Tibère, fait effectivement raser un très grand nombre d'esclaves, des esclaves qui étaient sur le chemin de la procession censés tenir des flambeaux.
Il est remarquable, Caroline Husquin, que l'attention des uns et des autres, dans la période de la domination impériale, se braque souvent sur cet aspect de l'apparence physique, c'est-à-dire la calvitie, mauvais prince, usurpateur, Caligula.
Ces mauvais princes sont décrits comme étant extrêmement laids pour les mettre en conformité finalement avec les grands défauts qu'on leur prêtait. Et donc ces récits font en fait la démonstration, la description du tyran par excellence qui est un personnage archétypal qui tire ses origines chez les Grecs et dont les Romains ont repris finalement les grandes caractéristiques d'abord sous la République et puis ça s'est transmis à l'époque impériale pour construire eh bien, la figure en miroir du bon prince et du mauvais prince. Et donc, ces princes chauves, ce sont les tyrans, ce sont les mauvais princes. Et la calvitie est en fait un élément utilisé par Suétone, parmi d'autres, pour construire cette figure du tyran. Donc on a ici un Caligula qui était déjà décrit comme chauve et pas très beau par Sénèque, puis dont les éléments ont été repris ensuite par Suétone. Et son portrait physique, en fait, colle trait pour trait avec les caractéristiques morales que l'on prête, ou de conduite que l'on prête au tyran, c'est-à-dire la cruauté, l'impiété, la dépravation. Et donc, par exemple, dans la vie de Caligula, eh bien, on retrouve tout cela. Caligula, il est cruel, il fait exécuter des sénateurs, hein, ça c'est un bon signe de la démonstration de la figure du tyran. Il est impie, il ne respecte pas les dieux, et il est dépravé. Et ça, on peut mettre ça en miroir avec sa description physique, qui inclut notamment la calvitie et la comparaison à la chèvre. Alors cette comparaison à la chèvre, c'est très très intéressant.
Allons bon.
Parce que ça renvoie en fait au bouc. Le bouc, pour les Romains, c'est l'animal puant, dépravé par excellence. Et ici, il n'est pas anodin que ce soit la chèvre, en fait, qui soit donnée en référence, puisque la chèvre, eh bien, c'est le féminin du bouc. Et donc, ça contribue en plus à aggraver le portrait de Caligula, qui est dépravé, mais pas dépravé dans le sens de la masculinité. On le féminise avec cette comparaison à la chèvre. Donc il est chauve, et en plus, il est comparé à une chèvre. Donc là, n'en jetez plus, le portrait est complet.
Vous ne pouvez que relever, en considérant la statuaire, qui est aussi une de vos sources, naturellement, Caroline Husquin, qu'il y a parfois contradiction entre l'image qu'on jette sur le prétendu chauve empereur et la manière dont lui-même s'est représenté, c'est-à-dire avec une abondante chevelure.
Tout à fait. On a vraiment une dichotomie entre cette statuaire qui souvent est émise par le pouvoir et donc flatteuse à l'égard du souverain, et puis ces textes qui sont écrits pour la plupart bien après sa mort et qui lui font une réputation posthume terrible. Le prince n'était sans doute pas aussi beau que ses statues, mais sans doute pas aussi laid que les textes veulent bien le dire, la vérité étant à mi-chemin.
En critiquant les chauves, on prenait des risques tant que le Sénat était puissant, puisque les sénateurs avaient au moins 42 ans, ce qui est un âge déjà avancé à l'époque, et que beaucoup d'entre eux avaient une tête en forme de caillou bien poli.
Effectivement, il faut en revenir au conseil donné par Cicéron, selon lequel eh bien, la plaisanterie ne doit pas retomber sur celui qui la formule. Et effectivement, l'outil de la calvitie comme élément de discréditation est à manier quand même avec prudence dans le domaine politique, puisque vous l'avez justement rappelé, hein, les sénateurs et les magistrats les plus importants eh bien, parvenaient à cette situation à un âge relativement avancé, qui peut laisser penser qu'un certain nombre était chauve. Donc effectivement, ça peut être un outil à double tranchant qui peut retomber sur la personne qui essaie de s'en servir.
Je ne voudrais pas, Caroline Husquin, que nous quittions sans que nous fassions une place à un personnage que vous m'avez fait beaucoup aimer dans votre livre consacré aux chauves dans l'Antiquité. C'est Synésios de Cyrène qui a publié un éloge de la calvitie. On est là à cheval entre le 4e et le 5e siècle. C'est un esprit paradoxal et dont l'écrit n'est pas sans humour. À l'époque, c'est un jeu littéraire souvent de faire l'éloge d'objets inattendus. Il y a l'éloge de la mouche par Lucien en particulier. Lui, c'est l'éloge de la calvitie. C'est un extrait d'une émission de Johanna Bedeau et Claudia Prolongeau dans LSD, la série documentaire de France Culture, le 27 mars 2024. Voici Synésios de Cyrène, le paradoxal.
Je prétends donc établir qu'un chauve n'a pas du tout à rougir. Qu'importe en effet qu'il ait la tête nue, s'il a l'intelligence velue. Morts eux-mêmes sont les cheveux, car les poils ont beau pousser sur les êtres vivants, ils sont privés de vie. Plus un animal en est recouvert, moins il a d'intelligence. Que l'on n'en ait pas du tout et l'on est au-dessus des autres hommes comme l'homme est au-dessus de la bête. De tous les êtres qui vivent sur la terre, l'homme est celui qui a le plus d'intelligence et le moins de poils. Mais tout le monde convient que de tous les animaux, le plus stupide, c'est le mouton. Or, voyez comme est fourni, comme est épaisse sa toison. Il semble donc bien que poil et raison ne s'accordent point. Nulle part on ne les trouve réunis. Si parmi les animaux l'homme tient le premier rang, parmi les hommes, celui qui aura l'heureuse fortune de perdre ses cheveux, le chauve, est ce qu'il y a de plus vénérable ici-bas.
Beau plaidoyer, nous ne pouvions pas quitter vos chauves, Caroline Husquin, sans donner la parole à Synésios de Cyrène.
Synésios de Cyrène, qui est un personnage tout à fait étonnant, qui nous a laissé un document précieux, aussi précieux qu'étonnant d'ailleurs, qui est l'éloge de la calvitie. Donc, qui s'inscrit, vous l'avez justement souligné, dans ces éloges paradoxaux, donc qui vise à faire l'éloge d'éléments un petit peu surprenants. Et Synésios, donc, vit à la fin du 4e et au début du 5e siècle de notre ère. C'est un savant de culture grecque qui se convertit au christianisme. Il devient d'ailleurs évêque de Ptolémaïs. Et il rédige cet éloge de la calvitie en réponse à l'éloge de la chevelure de Dion de Pruse, qui avait été écrit plus de 3 siècles auparavant. Parce que, suppose-t-on, Synésios, eh bien, il chauve lui-même. Et en lisant cet éloge de la chevelure par Dion de Pruse, eh bien, il est mortifié. Hein, il est mortifié de sa situation. Le texte commence ainsi, hein, sur la honte qu'il ressent de son état à voir ses cheveux tomber. Et puis, cette honte passe et il s'essaie à cet exercice de l'éloge paradoxal et il démonte finalement tous les stéréotypes accolés jusqu'ici à la calvitie. Alors c'est un document qui est vraiment très très intéressant puisque bon, on ne peut pas le prendre très très au sérieux.
Il a été réédité récemment par Arléa.
Oui, Arléa, on a fait une réédition récente et il est tout à fait étonnant. Parce que il permet en fait de voir que les stéréotypes perdurent à travers le temps. Donc on ne peut pas prendre au sérieux son argumentation, hein, qui est très plaisante et qui fait sourire. Et l'objectif n'était sans doute pas de convaincre, mais elle a cela d'intéressant de nous montrer que les stéréotypes que l'on a commencé à voir sous la République romaine, que l'on a rencontrés pour le Haut Empire, eh bien finalement sont sans doute encore en cours à l'époque de l'Antiquité tardive. Puisqu'il prend un à un tous les stéréotypes et il en fait le contre-pied et il argumente pour démonter ces stéréotypes. Donc chez Synésios de Cyrène, eh bien, le chauve n'est pas lâche, il est courageux, il n'est pas stupide, il est très très intelligent, au contraire c'est un signe d'intelligence absolue pourrait-on dire. Il n'est pas malhonnête, c'est vraiment l'archétype de la perfection, il n'est pas dépravé non plus, hein, au contraire, ce sont les chevelus qui sont adultérins.
Les adultères sont de la race des chevelus.
Tout à fait. Donc il inverse véritablement le prisme. Tout ce qui est reproché jusque-là au chauve, eh bien, devient reproché au chevelu. Et le chauve, eh bien, devient l'incarnation d'une certaine perfection, finalement. Et il atteint une certaine forme de divin avec Synésios.
Après tout, la lune est chauve.
Oui, oui, oui. Et on assimile les chauves à la lune. Ce sont de petites lunes.
Et en sens inverse, l'usage qu'il fait du mouton est assez plaisant.
Ben oui, on entendait sa comparaison au mouton dans l'extrait sonore. Effectivement, le sage, c'est le chauve, et finalement, l'animal qui, à contrario, devient l'incarnation de la stupidité, eh bien, c'est le mouton, avec toute cette laine dont on ne sait que faire et que l'on ne sait pas discipliner.
Nous en sommes tenus, Caroline Husquin, à votre antiquité. On pourrait naturellement prolonger la réflexion en concordance plus tard. Je songe notamment à Charles le Chauve, ce petit-fils de Charlemagne. Charles le Chauve, dont Laurentès a donné une excellente biographie. Et puis on pourrait aller jusqu'à la période de la bataille d'Hernani, quand les romantiques au balcon se moquaient des crânes chauves, des bourgeois du parterre.
On voit qu'il y a des permanences, mais c'est un jeu assez dangereux à jouer, parce qu'il y a aussi beaucoup de ruptures. Donc on est vraiment sur une histoire qui est entre continuité et rupture, et où finalement chaque société a ses propres perceptions, ses propres représentations. Et c'est aussi ça l'histoire, hein, c'est de finalement comprendre le présent en faisant le jeu des différences.
Oui, en effet, entre anachronisme et permanence. Nous sommes familiers de ce type de réflexion à ce micro. Merci beaucoup. Merci Caroline Husquin de nous avoir conduits dans cet univers où Rome et la Grèce se sont peuplés de chauves grâce à vous.
Merci à vous.
Votre ouvrage que vous avez publié en collaboration avec votre ami et complice Robinson Baudry. Vous êtes maîtresse de conférence à Lille, lui est maître de conférence à Paris-Nanterre. Votre livre s'appelle « Les Chauves, histoire d'un préjugé dans la Rome antique » et il est publié chez Armand Collin. Il est sorti tout récemment. Votre thèse a été publiée également sous le titre « L'intégrité du corps en question, perception et représentation de l'atteinte physique dans la Rome antique » paru aux Presses universitaires de Rennes, excellente édition, en 2020. Quel a été votre souci initial et en quoi cela se rattache-t-il à la problématique du chauve ?
Alors, le souci initial, c'était de circonscrire un petit peu une définition du handicap pour l'Antiquité romaine. Et ça a été une pleine démarche d'anthropologie historique, puisque j'ai posé finalement une question moderne ou contemporaine à mes sources. Et il a donc fallu que j'adapte ma réponse, finalement, au point de vue qui était celui des anciens, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de définition du handicap telle que nous, on pourrait la concevoir chez les anciens.
Et vous en avez tiré quelles conséquences sur le rebond ou la différence ?
La conséquence, c'est que le physique n'est pas un élément anodin, et d'où les chauves, parce que j'ai croisé beaucoup de chauves au cours de ma thèse, donc les chauves font partie pleinement des éléments physiques qui sont remarqués par les anciens et qui font parfois l'objet d'un traitement spécifique. Mais le point de départ d'une historiographie peut-être un peu datée, c'était que les personnes en situation de handicap faisaient l'objet d'un rejet systématique dans les sociétés anciennes. Et quand on prend les sources, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas et que finalement c'est du cas par cas et chaque personne, en fonction de ses moyens, de sa situation, de son genre, de son lieu de résidence, eh bien, peut faire l'objet d'un traitement tout à fait singulier.
Vous souhaitez à juste titre que nous rendions hommage à quelques ouvrages qui vous ont inspiré, antérieurs ou vôtres, en particulier celui de Christian Bomberger qui s'appelait « Les sens du poil, une anthropologie de la pilosité » chez Créafis Éditions 2015.
C'est un ouvrage absolument passionnant parce qu'il nous permet bien de prendre la mesure finalement de l'importance du poil ou de son absence selon les sociétés et de voir que le poil ou le cheveu ne sont pas des éléments anodins et que leur présence, leur absence ou la façon dont ils sont arrangés ont des significations qui peuvent diverger et un traitement qui sont faits aux personnes qui en sont porteuses qui peut diverger selon les sociétés et les époques considérées. On espère avoir produit un ouvrage d'anthropologie historique qui montre cette contingence de la calvitie.
Et puis vous avez tiré grand profit de l'ouvrage qu'ont dirigé ensemble Marie-France Osépi et Joël Cornette, qui s'appelait « L'histoire du poil chez Belin » en 2017.
C'est un ouvrage qui est absolument pionnier sur la question et qui pose un jalon important en offrant la parole à différents auteurs qui permettent d'envisager la question des pilosités à travers diverses aires géographiques et diverses époques.
Merci beaucoup, Caroline Husquin, de nous avoir conduits dans cet univers capillaire.
Merci à vous.
Tous les grands de ce monde ont toujours la tête en rotonde. Regardez Yul Brynner, Papa Khrouchtchev, Eisenhower. Voyez les professeurs, les penseurs, les docteurs. Pour être distingué, il faut un crâne déplumé. Mais si les chauves sourient, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'esprit.
Pourquoi le français est chauve ? Parce qu'il est chauve, parce qu'il est chauve. Pourquoi le français est chauve ? Parce qu'il est chauve et qu'il boit du vin. Ah, quel plaisir d'avoir une belle tête chauve. Ah, quel plaisir de pouvoir la polir avec une brosse à reluire.
Et tandis que vous pouvez entendre La Marche des Chauves, une chanson d'Édouard Duleux et de son orchestre, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Corentin Bailly à la prise de son, Keating Wang à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Hervé Evano.